qui sera là sur l'alignement de départ, qui sera réclamé au ballotage ou non. Multitude de questions et questions de bien mettre la table à tout ça. Martin McGuire est avec nous. Salut Martin.
Bonsoir Jérémy.
Bon Martin, dans un premier temps, peut-être nous parler là au ballotage, qui a été réclamé et peut-être mentionner aux gens qu'il y a d'autres joueurs qui ont été soumis au ballotage également.
Oui, effectivement. On sait que jusqu'à demain, en tout cas, là, il faudra attendre à savoir si Corey Perry ou encore Mikael Frolik seront réclamés par les autres équipes. Il est quand même peu probable, Jérémy, parce que ces joueurs-là, allés jusqu'à Noël, n'avaient pas trouvé preneur et n'avaient pas reçu d'offre non plus. Perry avait eu une approche de la part du Canadien en octobre, à la journée de l'ouverture du marché. Et la signature ne s'est faite qu'au mois de décembre. Visiblement, Perry avait voulu tester le marché, voir ce qu'il aurait pu avoir ailleurs. Il a eu le minimum pour un an. Mm-hmm. Même chose pour Mikael Frolik, là, qui, avant de recevoir l'appel de son ancien patron, Marc Bergevin, ben, il n'y en avait pas de travail pour lui dans la Ligue nationale. Mais Noah Jolson, c'est absolument pas surprenant. Hier, à l'entraînement du Canadien, quand on a appris qu'il avait été placé au ballotage, je pense que tous les collègues, là, tous ceux qui étaient là où on a pu se parler avec distanciation sociale, bien sûr, on se disait que c'était lui qui était le plus susceptible de partir. Premièrement, parce que ça a été un choix de première ronde en 2015, ça fait pas si longtemps. Et il eût été de ces deux rondelles qu'il a reçues en plein visage il y a deux ans dans un match contre les Capitals de Washington, au moment où il était en train de se tailler une place dans le top 6. Ben, Jolson serait dans le top 6 du Canadien depuis ce moment-là. Alors, il en vaut la chandelle, il en valait la chandelle pour une équipe comme les Panthers qui a toutes sortes de trous en défense. Et il faut rappeler à nos auditeurs que Jolson avait été repêché en 2015, le premier choix du Canadien, à la fin de la première ronde, et qui l'avait sélectionné? Shane Sherla, qui à ce moment-là venait de se joindre à l'organisation du Canadien. Il est arrivé en 2013, Sherla, et c'est le moment où le Canadien avait repêché quand même beaucoup de gars de l'Ouest, là où Sherla se tenait, entre autres, et Jolson avait été son premier choix. Mellenby également le connaît bien, il est dans l'organisation avec M. Zito, le nouveau directeur général. Alors, on va écouter Claude Julien. C'était pas une surprise de voir Jolson réclamé par les Panthers.
Oui, je pense que ces gars-là, Shane, c'est le gars qui a repêché justement Noah Jolson. Là, c'est que ces gars-là, quand ils repêchent un joueur, ils ont toujours un petit penchant, puis peut-être qu'ils croient que Noah peut les aider à leurs équipes. Puis comme j'ai dit tantôt, de notre côté, on n'avait pas le choix. On pouvait seulement en protéger 21, puis on pensait que Noah en était un joueur qui avait pas joué pendant deux ans, presque pas joué pendant deux ans. Les équipes seraient peut-être un petit peu hésitantes. Mais tu as deux gars que tu as mentionnés tantôt qui le connaissent bien et qui semblent avoir confiance en lui.
Clairement, ce sera un atout pour les Panthers parce que là, ça nous montre peut-être le manque de profondeur à la défensive du côté des Panthers. Mais en même temps, ça nous donne une bonne idée sur qui sera là pour le premier match de la saison. Là.
Ouais, écoutez, normalement, le trio de Dano, Tatar et Gallagher, Drouin, Suzuki, Anderson, Toffoli, Kotkaniemi, Armia, ton top 9 avec ça, là. Mm-hmm. Ensuite, Byron, Evans et Lekkonen, ce seraient tes derniers attaquants pour compléter ton top 12. Est-ce que Corey Perry, s'il passe le ballotage, sera inséré dans la formation mercredi contre les Maple Leafs? Est-ce qu'on choisira Perry plutôt que Lekkonen? Ça va être intéressant de voir quelle décision sera prise à ce moment-là. Byron peut jouer un petit peu au centre, mais c'est surtout un ailier. Je pense que Evans n'a pas été menacé par Ryan Poehling. Poehling n'a pas besoin de retourner au ballotage avant d'être cédé au club école. Il est à peu près réglé que Victor Mété sera le septième défenseur, puisque Ouellet est déjà passé au ballotage. Donc, techniquement, il peut être placé sur le fameux taxi squad, l'équipe de réserve. Alors, Claude Julien, aujourd'hui, lorsque je l'ai questionné, avait une bonne idée des 20 noms qu'il était pour inscrire sur son bout de papier qu'il remettra au marqueur officiel à Toronto pour le premier match.
Bien, écoute, encore là, tu as quelques jours là, à voir ce qui va se passer. On a encore des gars qui sont au ballotage là, aujourd'hui. Et puis, il y a encore des petites décisions à faire. Mais tu sais, on a quand même une idée de ce qu'on veut puis de la façon qu'on veut commencer.
Clairement, je pense que là, on sait à quoi ça va ressembler. Mais là, Martin, tout ça débute mercredi. Et on le mentionnait, ça commence avec une séquence de 6 matchs sur la route. Par la suite,
En
13 jours, il y aura 2 matchs à domicile. Et ça sera vraiment intense, le calendrier du Canadien. C'est chargé, on se promène, on voyage. C'est pas ce qu'on voit habituellement en saison régulière, là.
Tu sais, normalement, là, Jérémy, si on était dans un monde normal et que la saison 2020-2021 avait commencé le 1er octobre, le Canadien serait quand même parti à Toronto une journée avant le premier match, match qui aurait pu avoir lieu aux alentours du 3-4 octobre. Là. Et là, ben, on serait parti pour un marathon de 7 mois, 82 matchs. 7 mois, 82 matchs, c'est long. Évidemment, tu sais qu'il va arriver toutes sortes d'affaires dans ce processus-là. Tu dois te préparer, pas à gagner ta saison le premier match, mais tu dois bâtir et tout ça. Sauf que là, là, on s'en va sur un long sprint, si tu me permets l'expression, 5 mois au lieu de 7, et bien évidemment, 56 parties en 116 jours. L'approche est complètement différente. Et la façon dont on fait un sprint, quand on veut le réussir, il faut sortir des blocs. Alors, on va voir comment le Canadien va sortir des blocs, surtout dans ce premier voyage. Voici Claude Julien là-dessus.
C'est sûr qu'on a besoin d'un bon départ. Puis, le challenge est là. Martin, surtout quand tu joues tes premiers 6 matchs sur la route, ça ne sera pas facile, mais c'est un bon défi pour nous aussi. Ça nous donne une chance aussi de bâtir de la bonne chimie en étant ensemble là, pendant, on va être parti à peu près 13 jours. C'est qu'on espère que ça va être quelque chose qui va être à notre avantage. Puis si on peut justement gagner des matchs puis revenir avec une victoire, avec une fiche gagnante, 6 matchs sur la route, là, c'est pas facile, pas une façon la plus facile de commencer.
Ça va prendre du bon boulot de tout le monde, mon cher ami Martin, tu sais, puis les vétérans, ceux qui sont là, le noyau dur du Canadien doit connaître un bon début de saison. Ça sera le cas de Jeff Petrie, d'ailleurs.
Oui, lui fait partie de ce noyau-là. Il est dans le groupe de leaders avec les Carey Price, les Shea Weber, Brendan Gallagher. Bon an, mal an, là, tu sais qu'avec Carey Price, c'est le gars qui, avec Brendan Gallagher et Price, dis-je bien, c'est le gars qui a le plus d'ancienneté. Chez le Canadien de Montréal. La roue a tourné depuis les derniers mois, les dernières années. Alors, c'est un gars qui a un regard intéressant sur l'équipe. Et lui, évidemment, il a signé un contrat, puis on se souvient de la conjoncture. Hein. Lui, il voulait savoir ce que Gallagher ferait, entre autres. Il voulait parler au leader de l'équipe et tout ça. Puis après ça, il a reçu l'offre de prolongation de contrat, puis il a voulu se commettre. Évidemment, quand les nouveaux sont arrivés, puis quand le vent de fraîcheur du mois d'octobre, avec les acquisitions de Toffoli, de Anderson, de Edmundson, qui est son partenaire maintenant, de Jake Allen comme gardien de but, ça a fait en sorte que tout le monde est devenu confiant qu'avec ces brèches-là colmatées, le Canadien pourrait faire un bout de chemin. Petrie se range derrière les autres leaders. Il croit bien qu'il est dans une bonne situation avec le Canadien, que l'équipe est en bonne posture. Et il a fait quelques remarques sur les nouveaux joueurs qui sont arrivés.
Well, I touched on Toffoli, just on that presence he has on the power play, playing that middle area. Being able to shoot from there and being a threat there. I think that's a big addition. And Edmundson and Anderson, I think both bring a lot. I think Edmundson brings another big body to the back end that skates well, and Anderson, giving us size up front. But I think you ask any guy in this room, shocking a guy that big and moves as well as he does. I mean, he's up there with Paulie as one of the fastest guys on our team.
Alors, c'est intéressant ce que nous dit Jeff Petrie parce qu'il parle de Anderson. Écoute, moi, c'est un de ceux que j'ai remarqué au camp d'entraînement. Là. En ligne droite, il patine aussi vite que Paul Byron, mais il est deux fois sa grosseur. Alors, tu sais, c'est le genre de profil que le Canadien n'avait pas. Marc Bergevin a payé quand même pour l'avoir avec Max Domi, puis a payé aussi pour le garder longtemps. Il a investi, il est confortable avec ça. Puis ce qu'il a dû voir pendant le camp d'entraînement a dû le rassurer parce que Anderson, il fly. Puis en plus, il est tout le temps devant le but, il est dans les zones chaudes. Il va beaucoup aider ses nouveaux coéquipiers. Écoute, je fais une parenthèse, Jérémy, parce que je veux te parler de Drouin un petit peu. Là. Moi, je pense que Drouin, là, actuellement, là, Il joue probablement son meilleur camp d'entraînement depuis qu'il est avec le Canadien.
C'est une bonne chose.
Puis j'ai l'impression que Anderson, ça l'énergise. Puis le fait de commencer avec Suzuki sur le deuxième trio, de continuer à bâtir ce qui avait commencé l'année passée un peu avec Suzuki avant d'être blessé, je pense que pour lui, c'est un stimulant intéressant. Puis Petrie a parlé également de Toffoli. Ça, c'est un autre joueur que j'ai beaucoup aimé dans le camp d'entraînement. Toffoli, là, il ne gagnera pas le tour le plus rapide au prochain match d'étoiles avec son coup de patin. C'est drôle parce qu'il patine, puis tu as l'impression qu'il n'avance pas, mais la première affaire que tu sais, c'est qu'il est rendu à bonne place au bon moment avec le bâton prêt. C'est un gars qui a un flair très intéressant pour marquer des buts. Et écoute, ça s'ajoute au gars que Jeff Petrie a remarqué. Il y en a un qui a été remarquable et remarqué pendant ce camp d'entraînement-là. C'est Alexander Romanov. Romanov aura son baptême de la Ligue nationale mercredi contre les Maple Leafs. Il y a beaucoup d'attentes, mais je vais te dire une affaire, Jérémy. Écoute, il est là une demi-heure avant les autres pour les pratiques. Il sort une demi-heure après les autres. Le gars de la Zamboni attend après lui tout le temps. C'est un gars qui, tu sais, les coéquipiers, là, ils disent pas qu'il est fin, puis qu'il est souris, puis qu'il est beau, là. Ce qu'ils disent de lui, c'est qu'il travaille fort, il a toujours le pied dans le fond, il comprend vite ce qu'on lui explique, et surtout, c'est un patineur hors pair. Qui de mieux que Brett Kulak, qui sera son partenaire, du moins pour les premiers matchs, pour nous parler de lui?
I think, you know, the sky's the limit with him. He's got all the tools, he's a young D-man, he's got a lot of confidence, and, you know, what I see in him, I see he moves really well, he's a big, strong guy, and he makes assertive plays. You know, he's not on his heels ever. And I've noticed he's very vocal on the ice, and it's easy to hear him when he calls for pucks over. And that's a huge thing. So I'm actually really impressed with how well he picks things up, how quick he picks it up.
Alors, il comprend vite, Jérémy, il patine vite. C'est un gars qui est très vocal sur la patinoire, nous dit Kulak. Il dit pour lui, le sky is the limit parce qu'il a les atouts pour jouer au hockey. C'est sûr qu'il va faire des erreurs. Il va faire des erreurs. C'est un gars de première année dans la Ligue nationale. Mais comme il a joué dans la KHL avec des pros, il va peut-être en faire un peu moins. Puis l'affaire qui est formidable, c'est qu'il est rapide, puis qu'il est combatif, puis qu'il est impliqué dans le jeu. Alors souvent au camp, des fois on l'a vu faire des erreurs, mais il a été capable de se rattraper sur le même jeu parce que les pieds lui bougent constamment. Il est souvent en mouvement sur la patinoire, puis il a un bon sens du jeu.
Je ne sais pas si tu as vu l'exercice. Et en fait, je sais que tu as vu l'exercice, mm-hmm. mais moi, j'ai eu la chance de voir des images dans un bulletin de sport, je pense que c'est RDS, où il montrait un exercice où c'était, tu sais, l'exercice pour les défenseurs. Le défenseur est arrêté à quelques pieds après la ligne bleue. Et il était contre Josh Anderson. Là,
il part avec l'attaquant. Là. C'est,
exact.
C'est ça.
Okay,
ça, Josh, c'est un exercice torture pour les défenses.
Ça, c'est horrible. Puis tu pars arrêté en passant. Fait que donc, tu as d'affaire à bouger les pieds. Josh Anderson, c'est une fusée. On le sait, là, c'est une fusée.
Oui.
Et Romanov arrive à compétitionner, arrêté, avec Josh Anderson qui part de l'avant. Je vous le dis, là, moi, je regardais Romanov là-dessus, puis je l'ai vu dans le match. Là. Je dirais pas que ça sera un grand défenseur avec le Canadien. Je vais pas là. Je vais juste dire, c'est un joueur de hockey. Un sérieux joueur de hockey.
C'est un patineur fluide. Ah. Vraiment, là. Tu sais, les joueurs européens, là, beaucoup de joueurs européens ont ça dans le sang, le patin, là. Mais lui, il l'a dans le sang, le patin. Puis en plus, là, je le répète encore une fois, lui, son attitude, là, puis son désir de vaincre, puis son désir de s'améliorer, puis de bien jouer, va le faire passer à travers. Alors, ça va être intéressant de voir.
Oui.
Il sera pas parfait, là. Il va faire des erreurs.
Mais non,
des
il
fois,
est tout
Jérémy.
Jeune, c'est correct, là, tu sais, mais quel joueur de hockey. Honnêtement,
il a la capacité de les rattraper, ses erreurs.
Martin, l'avantage numérique, ça sera quelque chose d'important parce que si on a parlé d'un sprint, il faut que ça marche en avantage numérique parce que la saison n'est pas trop longue pour te reprendre.
Non, ça, c'est sûr. Les unités spéciales sont toujours des éléments très importants. L'année passée, on le sait, même il y a 2 ans, le jeu de puissance du Canadien, parfois bon, parfois moins bon, parfois pas très bon. Le désavantage numérique. On va s'attarder ce soir sur le jeu de puissance. Je vous rappelle que les unités que vous verrez là, lors du match de mercredi soir seront Drouin, Suzuki, Toffoli, Petrie et Weber. On a réuni Petrie et Weber ensemble en série et on va poursuivre dans la même veine. L'unité numéro 2 maintenant devrait être composée de Gallagher, Kotkaniemi, Tatar, Romanov et Anderson, également Perry. Quand Perry sera dans l'alignement, si c'est le cas mercredi soir, mon feeling c'est que oui, mais bon, je peux me tromper, Anderson et Perry, dont la responsabilité est d'aller s'installer devant le gardien adverse, vont faire en alternance probablement, dépendamment de l'allure du match. Là. Il est intéressant l'arrivée de Romanov aussi sur ce jeu de puissance-là. Il n'y a pas le tir de Shea Weber, mais il est capable de la placer au filet. Puis c'est un gars qui a quand même passablement de mobilité. Vous avez entendu les noms que je vous ai nommés sur les deux unités. La grande différence cette année, Jérémy, c'est que le Canadien a plus de joueurs pour finir, la mettre dedans. Et dans les dernières années, pour avoir eu une discussion à un moment donné avec un des entraîneurs de l'équipe, il me disait « On essaye bien des affaires, mais si on n'a pas assez de joueurs pour finir le travail, c'est bien difficile d'être très compétitif sur le jeu de puissance. » Là, tu as des options. Et c'est ce que Jeff Petrie nous a expliqué, entre autres, aujourd'hui.
Yeah, I think so. I think, you know, the with both units, there's, you know, guys that are, you know, able to move the puck. And, you know, with like, adding a guy like Toffoli in the middle, that's comfortable in that position. And, you know, knows how to get the shot off from there is a big part of that on our unit is, you know, having shooting threats from all positions. You know, I think that makes a big difference. I mean, I think you look at the success that Washington's power play has. They have Ovi there, but they also have a guy with Carlson at the top that's not afraid to shoot the puck and Oshie in the middle. So I think that's something that we're looking at to, you know, to have shooting threats. So, I mean, if you know, Toffoli gets a shot off, then they're going to, you know, tighten up the box. Or if I shoot, then they're less likely to, you know, give that lane. They're going to kind of sag back to the middle. So I think having a shooting presence from all areas of the ice, I think, you know, teams will have to respect every guy's shot rather than, you know, kind of cheating towards taking away one.
Alors, avec des, ce qu'il dit, c'est qu'avec des options, puis il a donné l'exemple de Washington, dit, t'as Ovechkin, mais c'est parce que t'as aussi Carlson à la défense, il n'a pas mentionné Oshie, il n'a pas mentionné Backstrom, mais il y a des gars qui peuvent tirer. Alors, ce que le Canadien est en train de bâtir, c'est que Petrie peut tirer, Weber peut tirer. Sur cette unité-là, Suzuki peut prendre un bon lancer des poignets, il dégaine vite, Drouin également, et en plus, Toffoli, qui est dans le milieu de la boîte, peut la faire bouger la boîte et peut même tirer lui également. Sur l'autre unité, tu as Tatar, tu as Kotkaniemi. Gallagher est moins tireur, mais tu as quand même plusieurs armes qui s'offrent à l'équipe. Alors, tu sais, ce que Petrie dit, en fait, c'est qu'ils peuvent moins tricher toujours sur le même, c'est-à-dire Weber, puis ça nous rend moins prévisible, Jérémy.
Bien, c'est fini le temps où ça sera juste chez Weber, parce que là, avant, c'était on donne la rondelle à chez, puis ouais. Chez lance au filet, mais là, on va être capable d'être varié un peu, ce qui est, espérons, une bonne nouvelle, puis espérons qu'on ait des résultats positifs, parce qu'on en aura besoin, j'en suis convaincu. Maintenant, Martin, je veux qu'on parle de Gary Bettman.
Oui.
Il a rencontré les journalistes aujourd'hui à l'aube...
Virtuellement,
oui. Fait bien de le mentionner. À l'aube de l'ouverture de cette saison qui débutera mercredi. Premier match, c'est des Penguins Flyers, je pense. C'est ça, le premier match?
Exactement. 7h30. Exactement. La rivalité de la Pennsylvanie.
Exactement.
Puis ensuite, bien sûr, ce sera Toronto, le Canadien et tout. Bettman a dit plusieurs choses, je vous les résume, puis on va entendre un extrait. Entre autres, il nous a dit, vous savez, là, il y a eu beaucoup de spéculations sur nos histoires de revenus, là, mais les revenus de guichet, de loge, de stationnement, de concession, ça représente 50% de la tarte au complet. Alors, si c'était 5 milliards, les revenus anticipés, ça veut dire qu'il y a 2,5 milliards qui sont partis. Moi, je pense que c'est un peu plus que 2,5 milliards, là, mais c'est à peu près ça ce que nous dit M. Bettman. Il dit l'engagement qu'on a fait, ça a été de prendre nos responsabilités. Ça veut dire prendre une perte sur le menton, pour ne pas dire autre chose, pour présenter notre sport puis être présent parce que les autres ligues professionnelles le faisaient. Alors, c'est ce qu'on a décidé de faire. Il a dit, comme prévu, l'expansion n'est pas retardée. Seattle va rentrer dans la Ligue à l'automne de 2021. Il va avoir un repêchage d'expansion, bien sûr, avec les assises qui auront lieu un petit peu plus tard cette année. Le meilleur scénario pour la Ligue nationale, parce que, Jérémy, au moment où on se parle, là, il y a trois équipes qui vont pouvoir accueillir des spectateurs. L'Arizona, Dallas, qui va commencer un petit peu en retard avec les cas de COVID, et les Panthers de la Floride. Il y avait le Lightning, mais le Lightning a décidé de mettre ça en arrêt, les spectateurs. Là, ils ne le feront pas au départ. Alors, outre ça, là, M. Bettman ne s'est pas avancé. Il a dit, nous autres, là, dans le meilleur des mondes. On joue cette saison-là, on passe à travers sans problème, sans trop avoir remis de partie et tout ça, sans avoir eu trop d'obstacles avec la COVID. Et on revient en force à l'automne 2021 avec un calendrier de 82 matchs, les divisions replacées comme elles étaient avant, parce qu'il dit, c'est clair, nous autres, là, on va être une ligue de 32 équipes. On veut que les villes voient toutes les équipes et tous les joueurs. Pour nous, c'est important. Alors, la division canadienne, là, comme on dit chez nous, un soir seulement, profitez-en, ça va être juste pendant cette saison de 56 parties. C'est ce que M. Bettman a mentionné. Puis le scénario, évidemment, c'est de réaligner tout ça pour l'automne prochain. L'élément que je vous ai gardé, c'est sûr qu'on est en temps de pandémie, Jérémy. Il y a des endroits où c'est complètement hors de contrôle. On le sait, on vit dans un de ces endroits-là. Il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis. M. Bettman n'est pas dupe. Il dit, écoutez, on va devoir probablement réagir à certains moments, mais on est prêt. Écoutons-le.
We have to be ready to adjust and adapt to anything that may happen. And we're going to have to make judgments in real time. We've had to adjust even before we started playing the Dallas schedule. We've left ourselves not much, but a little flexibility to deal with that. Hopefully, we're not confronted with that possibility, but we're also really realistic enough to know that that may well happen.
Alors, ça pourrait arriver. Il faut s'y préparer. Et en plus, Jérémy, quand on a replacé les divisions, là, c'est peut-être pas le cas pour le Canada parce que, évidemment, géographiquement, là, t'as le Canadien d'un bout, puis les Sénateurs, puis à l'autre bout, t'as Vancouver. C'est pas la porte à côté, là. Ça, c'est une réalité. C'est à cause de la frontière. Mais M. Bettman a dit, quand on a placé les équipes, là, principalement aux États-Unis, on s'est arrangé pour, un, limiter les déplacements. Limiter les déplacements, donc, limiter les pourcentages d'attraper la COVID pendant ces déplacements-là. Il dit, comme il y a beaucoup de matchs qui opposent les mêmes équipes souvent, on peut noliser des hôtels dans chacune des villes où les équipes iront camper et ce ne seront que cet hôtel-là dans chacune des villes où les équipes iront séjourner pendant leurs arrêts pour le calendrier régulier. Puis il dit, l'autre affaire, c'est que si on a à réagir pour remettre des matchs, comme c'est le cas pour Dallas, étant donné que les villes sont proches et qu'ils jouent seulement à l'intérieur de leur division, on a un peu plus de marge de manœuvre. S'il nous manque un match, deux matchs, trois matchs, on peut faire en sorte que, par exemple, je lance un exemple. Exemple, le Canadien et les Sénateurs, là, tu sais, c'est 2h30 de route entre les deux villes, là. Alors, s'il manque un Canadien sénateur à la fin de l'année, là, ben, ils peuvent jouer un 2-2. Avec Ottawa. Mm-hmm. Puis on peut s'arranger comme ça. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on a réaligné les divisions parce qu'on voulait justement prévoir. Puis l'autre affaire qu'on a prévue, c'est que dans le calendrier, là, à l'intérieur de ce qu'on a vu comme fenêtre pour donner la Coupe Stanley et commencer la saison mercredi, il y a ce qu'on appelle une zone tampon. Il y a une coupe de jours dans le calendrier de chacune des équipes qui sont prévues à hockey. Il nous manque un match.
Si on a besoin de replanifier tout ça,
c'est là que ça va.
Puis également, à la fin de la saison, avant que tout ça débute, les séries de fin de saison, il y a encore une zone tampon là, où on peut reprendre des matchs au besoin. Fait qu'on a planifié ça.
On a planifié ça. Puis comme les équipes, je le répète encore, tu sais, la division, ce qu'on appelle la division métropolitaine, là, la division de New York, là, écoute, ces équipes-là sont à peine à une heure de vol les unes des autres. Alors, tu sais, on peut jouer à la limite, là, il en manque un match, là. On peut jouer un samedi soir dans une ville, New York Islanders, puis on peut jouer le dimanche après-midi chez New York Rangers.
C'est ça.
Il n'y a pas de problème là.
Non, mais non, clairement.
Alors, bon, mais c'est pour ça, c'est un peu prêt. Ce que M. Bettman nous a expliqué.
Mais il faudra être prêt parce que ce ne sera pas une balade dans le parc nécessairement. Non. Il y aura assurément des cas de COVID-19. On l'a vu déjà, tu l'as mentionné. Mais il faut être prêt, puis c'est ce que la Ligue nationale de hockey veut faire. Martin, le temps file. Nous, là, écoute bien, on se donne rendez-vous demain, OK? 21h, 4 après le bulletin d'information. Toi, Danny, moi ensemble, on discute, oui, du Canadien, mais je veux qu'on discute également de cette division canadienne. Quelle sera l'opposition du Canadien de Montréal dans ce qui s'en vient dans ce sprint de 56 matchs? Puis on va faire nos, je dis pas nos prédictions, mais notre classement potentiel
on
également.
On va se mouiller.
On va se mouiller.
On va se mouiller. On fera une table ronde de forme triangulaire.
Ah, ben ça, c'est une bonne idée. Puis avec.
On échangera des idées.
Distanciation sociale. C'est comme ça que ça marche.
Ah, ça, c'est sûr. Okay. Ça, c'est sûr.
Toujours un plaisir. Merci beaucoup, Martin McGuire.
Bonne soirée, bonne émission.
Merci, au revoir. Martin McGuire qui nous faisait un résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui chez le Canadien.